Bonjour à tous. J'ai reçu ce titre, comment évaluer les interventions thérapeutiques non médicamenteuses auprès des personnes avec autisme. D'ailleurs, moi aussi, j'aurais des mots à dire sur personnes avec autisme, mais c'est pas le sujet. Tout de suite, j'ai pensé au rapport de l'AHAS sur l'évaluation thérapeutique. Donc, et au prurit qu'il a suscité dans notre communauté. Quelque part le fait que tout d'un coup une institution s'est permis d'avoir un discours d'autorité et de vérité sur la méthodologie à utiliser pour évaluer des interventions et à avoir dedans des passages à l'acte qu'on peut discuter. Et donc c'était autour de ça que je voulais discuter avec vous. Et il faut que je marque l'heure aussi. Ça marche. Voilà, c'est ça exactement. Voilà. Alors, premier point. Amaria l'a dit. Vous avez remarqué, c'est vrai à la fois pour les médicaments et pour les interventions non médicamenteuses. On n'évalue jamais avec la même méthodologie les effets indésirables, des effets positifs. Et ça, c'est une curiosité. Pour les médicaments, vous le savez, les effets indésirables sont évalués sur des modèles animaux en préclinique. Alors là, pour les interventions médicamenteuses dans l'autisme, ça va être dur. Et essentiellement en post-AMM. Parce que les essais de phase 3, même quand il y a des milliers de sujets, ils ne sont pas faits pour des questions de puissance statistique pour évaluer les effets indésirables, surtout ceux qui sont graves et qui sont en général les plus... qui sont rares. Et puis, il y a en fait une raison aussi que l'on ne dit pas, c'est que, vous le savez, que dans le médicament, il y a une situation complètement folle de conflit d'intérêts assumé, qui est que ce sont les firmes qui vont gagner de l'argent avec les médicaments qui les évaluent. Donc vous ne pouvez pas leur demander d'évaluer les effets indésirables. Ça n'est pas possible. C'est une injonction paradoxale. Vous pouvez leur demander de mettre toute l'énergie possible pour montrer que les médicaments marchent. Ça, ils vont le faire. Vous ne pouvez pas leur demander de montrer qu'ils ne marchent pas. Et vous voyez déjà au passage qu'en fait la méthodologie d'évaluation des thérapeutiques, qu'elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses, ça n'obéit pas à une pureté méthodologique complètement neutre. Ça obéit à des problèmes sociologiques, économiques, etc., qui sont très importants. Donc premier point, les effets indésirables, c'est à part pour les médicaments, et comme l'a dit Amaria, pour les interventions non médicamenteuses, c'est zéro. C'est zéro. Comme si on considérait implicitement que les interventions non médicamenteuses n'avaient pas d'effet indésirable. Alors, en chirurgie, bien sûr, tout le monde sait que ce n'est pas le cas. En psychothérapie, c'est qu'on a l'impression que de parler aux gens, ça ne fait pas de mal. Et bien sûr, tout le monde sait que ça n'est pas vrai. Tout le monde a eu des patients qui ont été détruits par des psychothérapies. Et d'ailleurs, c'est inévitable. Si les psychothérapies sont efficaces, alors elles vont avoir des effets indésirables. Et donc, c'est un très beau sujet de recherche. Évaluer les effets indésirables des psychothérapies, c'est un très beau sujet de recherche. Si ça vous intéresse, vous aurez des sous. Non, j'en suis persuadé parce qu'il y a très très peu de recherches. Il y en a, mais il y en a très peu. Alors, cette histoire-là pointe du doigt le fait que c'est quand même très bizarre tout ça. C'est très bizarre. Et pourquoi c'est bizarre? Parce qu'en fait, le développement de la méthodologie pour évaluer les thérapeutiques, qu'elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses, n'obéit pas à un principe de rationalité. Tout ça s'est construit par l'histoire. Et vous savez, dans les pays occidentaux, au premier rang desquels les États-Unis, qui a été le pays qui a mis le plus tôt des guidelines stricts pour évaluer les produits de santé, en particulier les médicaments, est-ce que vous savez jusqu'en 1970 qu'est-ce qui faisait qu'une thérapeutique était efficace? Son succès commercial. C'est marqué sur le site de la FDA. Il y a une étude historique qui a été faite sur l'évolution des modalités d'évaluation des médicaments. Donc c'est marqué, en 1970, la FDA dit que le succès commercial tout seul ne suffit pas pour décider qu'un médicament est efficace. Parce qu'avant on disait, si les patients payent, si les médecins prescrivent, c'est que ça marche. Ce qui est en partie vrai, et on dit ça pour les psychothérapies. Si mon patient revient me voir, ça fait 10 ans, c'est qu'il est content, donc c'est que ça fait quelque chose. Et c'est en partie vrai, mais bien entendu, en partie seulement. Alors la FDA, comment elle a fait en 1970, en se disant, bon, mais quand même, c'est pas sérieux, on a mis en route des choses pour évaluer les effets indésirables à cause des scandales de santé publique. Et puis, alors elle s'est dit, bon, on va aussi mettre des choses rigoureuses, rationnelles, pour évaluer l'efficacité. Alors là, ils se sont demandé, mais comment font les savants, en fait? Et ils ont vu que, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les savants, c'est-à-dire les pharmacologues, faisaient des études randomisées. Et ils se sont dit, bon, ben alors, si les savants font ça, on va proposer ça. En plus, il y a un avantage. Alors, les savants faisaient ça pourquoi? Parce que, pourquoi on a fait des essais randomisés? Parce qu'évaluer une thérapeutique, c'est horriblement compliqué. Parce que les déterminants du fait qu'un patient va mieux, eh ben, il y en a des milliers et des millions, et on n'en connaît même pas 10%. Donc comment voulez-vous faire de la science propre en ne maîtrisant, en ne connaissant même que 10% des variables en jeu? Et donc, l'idée des pharmacologues qui se demandaient, ben, finalement, moi j'ai quand même besoin, je développe des molécules, est-ce que cette molécule, elle a vraiment un effet sur les patients? On tire au sort, et il se trouve que le hasard écrase toutes les variables que vous ne mesurez pas. Mais au prix d'avoir une inférence statistique qui n'est jamais sûre. On n'a qu'une connaissance statistique de l'effet des médicaments. Donc, les savants avaient développé ça, l'essai randomisé, et la FDA s'est dit, bon, ben, si les savants l'utilisent depuis 20 ans, c'est que ça doit fonctionner. Et en plus, ça a un avantage, c'est que l'essai randomisé, c'est carré. Vous voyez? C'est une méthodologie, on définit les critères d'inclusion, on définit un critère d'efficacité, on n'a pas besoin d'en prendre plein, hein. On en fait un principal, on tire au sort, on attribue l'intervention à un groupe contrôle, alors on peut discuter, placebo, autre chose, etc. Et puis à la fin, on mesure l'évolution du critère, et puis on fait un test statistique, tout simple, et la réponse est oui ou non. Vous voyez, c'est absolument simplissime, et cette simplicité a un intérêt sociologique, qu'il est qu'il permet de résister aux conflits d'intérêts inhérents au fait que ce sont les firmes pharmaceutiques qui évaluent leurs propres produits. Donc on avait besoin, par rapport aux médicaments, à avoir une méthodologie très simple pour qu'on puisse expertiser les dossiers et les études que font les firmes. Donc l'essai randomisé, en fait, a été un juge de paix entre les firmes et les autorités de santé. Mais vous savez que ça n'a pas été si simple que ça. Même si le design est simplissime, on a des guidelines ICH, on appelle ça comme ça, International Conference on Harmonization, qui réglemente la conduite des essais. Ça fait des dizaines de milliers de pages, hein, pour des designs aussi simples que ça. Alors, bon, ben voilà, ça a marché, et le paradigme atteint ses limites en ce moment. Pourquoi? Parce que les essais sont mondialisés. Et là, j'ai vu récemment passer un essai dans la schizophrénie, une des dernières molécules, il n'y en a plus beaucoup. Mais la dernière molécule, elle a été évaluée où? En Russie, aux États-Unis, en Colombie et à l'Inde. Et la gestion de la schizophrénie en Inde, ben ça n'a rien à voir avec la gestion de la schizophrénie en France. Et même si, et comme on l'a dit tout à l'heure, un médicament interagit avec le système de soins, l'observance, comme on dit, est déterminée par les pratiques, par l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique en Russie et en Colombie, elle ne va pas être la même qu'en France. Voilà. Et donc, du coup, les payeurs français voient des études arriver qui n'ont pas été réalisées en France, et ils ne veulent plus payer ces médicaments très chers, alors qu'ils ne savent pas s'ils vont marcher en France. Donc il y a une vraie tension en ce moment au niveau de l'évaluation des médicaments. Les gens disent stop, ça ne marche plus. Et ça ne marche plus, c'est-à-dire en fait, l'outil méthodologique qu'ont utilisé les autorités de santé pour étudier les médicaments n'était pas l'outil méthodologique qui aurait été optimal en termes de santé publique. Parce qu'en fait, on a utilisé un outil qui permet de dire est-ce que le contenu de la pilule A vraiment un effet sur le sujet. Mais en réalité, dans la pratique clinique, cette question n'a que rarement d'intérêt. La vraie question clinique, c'est j'ai un patient en face de moi, j'envisage de lui donner ce soin-là, est-ce que ce soin va lui faire du bien? C'est ça la question que se pose au patient et au médecin. Mais vous voyez que cette question n'est que très éloignée de la question est-ce que le contenu de la pilule A a un effet statistique dans une population de patients par rapport à une même pilule, ou une pilule différente, ou une pilule identique sans principe actif, etc., etc. Donc vous voyez, il y a eu une curiosité fondamentalement irrationnelle qui a été que les autorités de santé n'ont pas choisi la méthodologie qui permettait pourtant de répondre aux questions qui se posaient. Et en fait, cette irrationalité n'est qu'une irrationalité de façade, c'est qu'il existe une rationalité cachée. Cette rationalité cachée, c'est que l'essai randomisé permet d'apporter des réponses convaincantes à des questions simples, et que dans le domaine du médicament, il y a tellement de conflits d'intérêts qu'on a besoin d'être hyper convaincant. Et donc on a simplifié les questions, et puis ça a fonctionné très bien jusqu'en ce moment. Alors, effet collatéral aussi, c'est que l'usage aussi intensif des essais randomisés a conduit à modifier notre vision de ce qu'est un soin. Si vous regardez les soins aussi dans d'autres pays, un soin, quelqu'un est malade, il va voir un sorcier. Que fait le sorcier? Eh bien, c'est du care et des herbes. C'est-à-dire, il va s'occuper de lui, il va le mettre dans une lutte, etc. Il va s'occuper de lui, et puis il va lui donner des trucs. Mais tout ça est mélangé. Tout ça est mélangé. Et nous, on a clivé, avec notre pensée dualiste, on a clivé d'un côté le care, on s'occupe des gens, on leur raconte des histoires et tout ça, et de l'autre côté, on s'occupe de leur corps. Je ne dis pas que c'est mal, il vaut mieux se faire soigner en général dans nos pays occidentaux qu'avec un sorcier. Donc ça fonctionne. Mais la démarche n'est pas gratuite. Donc, on a séparé le care et les herbes. Et après, on a continué. Les herbes, non, ça ne suffit pas de donner une herbe qui marche, il faut savoir si elle marche vraiment. Et donc, on a séparé dedans l'effet placebo de l'effet spécifique de la molécule. Et pourquoi on a fait ça? Aussi pour des raisons économiques qui fait qu'on paye le contenu de la molécule. Donc, si on paye le contenu de la molécule, on n'a pas envie de payer le placebo. Et puis, pour le care, c'est pareil, on a séparé le care, vont s'occuper des gens... D'accord, mais on l'a dit tout à l'heure, c'est compliqué et on a séparé l'effet non spécifique, en fait l'alliance thérapeutique, l'empathie et tout ça, dont on sait qu'en fait, par exemple dans la dépression, c'est le facteur numéro un qui explique la guérison des gens. Il y a eu de très belles études qui ont montré ça. Et puis vous avez l'effet spécifique du care qui va relever de prise en charge psychothérapeutique, éducative, etc., standardisée. Et donc, on n'a plus vu que nos méthodologies d'évaluation des soins ont conduit à décomposer le soin comme ça en placebo, effet non spécifique d'une molécule, en care, c'est-à-dire effet du soignant en dehors de sa prescription, qui peut être lié à une prescription ou qui peut être lié à une approche non médicamenteuse, et dans cette part liée au thérapeute, eh bien, il y a quelque chose qui est non spécifique lié à l'alliance thérapeutique, plus quelque chose qui est spécifique, qui est lié au fait qu'il a utilisé une méthode très particulière. Et en fonction des stratégies d'évaluation des soins que vous allez utiliser, eh bien, vous allez scotomiser 75% de la question. Et ça, c'est un vrai problème. Par exemple, on n'étudie jamais l'interaction entre le thérapeute et le soin. Vous voyez, c'est-à-dire, même avec les médicaments, vous évaluez un antidiabétique, jamais on va évaluer quelles sont les caractéristiques du médecin généraliste qui font que l'antidiabétique est plus ou moins efficace. Cette question n'existe pas, alors que bien entendu, elle est hyper importante, ne serait-ce que pour l'observance. Alors vous imaginez, j'en reviens aux soins médicamenteux, vous imaginez comme avec les soins médicamenteux, tout ça est très fortement mélangé. Vous avez un soin spécifique, donc qui a été manualisé, etc., mais bien entendu qu'il est donné par quelqu'un, et ce quelqu'un va avoir un rôle très important dans le fait que ce soin manualisé va fonctionner. Et puis ce soin non médicamenteux, c'est pas forcément que des paroles, le paquet par exemple. Et donc dans le paquet, on va se poser la question, mais alors est-ce qu'il faut un placebo de paquet? Cette question n'a aucun sens, parce que le placebo a été développé pour répondre à des questions très particulières qui étaient en lien avec le médicament et les aspects sociologiques de l'évaluation du médicament. Alors j'en arrive à ma conclusion, puisqu'on est au bout des 15 minutes. Vous qui devez faire de la recherche, alors par quel bout on prend ce problème? Alors, première réponse. Les gens
sérieux,
entre guillemets, c'est-à-dire ceux des maladies somatiques hypermédiatiques comme le cancer, le HIV, etc., qui sont confrontés à la même question que ça, avec des histoires de médecine personnalisée, vous savez, on arrive au même questionnement méthodologique. Quelle solution ? Alors d'abord, un, ils sont bien embêtés. Il y a un vrai problème aujourd'hui sur comment va être l'évaluation des thérapeutiques médicamenteuses en cancérologie dans 10 ans. Deux, la solution vraisemblable, ça va être N égale 10 puissance 6 sujets. C'est-à-dire qu'on ne va sûrement plus faire des essais randomisés comme on les faisait avant, on va faire des études beaucoup plus observationnelles, mais pour pouvoir gérer toute la complexité du problème, il faudra inclure à l'échelon de la planète 1 million de sujets, et ça dans des grandes bases de données à l'échelon international. Alors bon, pour l'autisme, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Certes, nous aurons besoin de grandes bases de données, de cohortes pour l'autisme, mais on n'atteindra jamais le million. Alors, du coup, en pratique, moi je pense qu'il va falloir d'abord, que les autorités de santé fassent leur bout de chemin, hein, c'est-à-dire qu'elles participent à des réunions comme ça, pour se rendre compte qu'en fait, leurs a priori méthodologiques relèvent de considérations sociologiques et que il n'y a pas forcément une optimalité en termes de santé publique et de gestion des patients. Il faut que tout le monde soit raisonnable. Premier point. Deuxième point, si vous faites de la recherche, vous avez un devoir d'innovation puisque c'est de la recherche. Donc vous avez un devoir de bousculer les paradigmes, de savoir que, oui, l'essai randomisé a une place importante dans notre société et qu'il est un paradigme expérimental très utile parce qu'il permet d'apporter une réponse convaincante à une question simple et que dans l'autisme, on a besoin d'être convaincant parce que c'est un grand bazar. Il n'y a pas de conflit d'intérêt tellement financier. Il y en a, bien sûr, il y a de l'argent partout. Hein. Mais il y en a beaucoup moins dans les sciences pharmaceutiques. Il y a des conflits d'intérêts idéologiques. Et pour aller contre ces conflits d'intérêts, il faut être convaincant. Et là, l'essai randomisé peut avoir une place. Donc oui, il peut être utile dans l'autisme. Mais il ne permettra jamais de répondre à toutes les questions. Eh bien, il faudra avoir recours à toutes les méthodologies envisageables. Bien sûr, des méthodologies qualitatives à partir d'études de cas, qui ont toute leur place, comme on l'a vu dans la première partie de la matinée. Toute leur place dans l'évaluation des soins, des essais randomisés, des études de cohorte, des approches mixtes, des études de cohorte statistiques, des études de cohorte, c'est-à-dire de cas multiples, avec des approches statistiques non purement inférentielles au sens des tests statistiques en général. Donc tout ça est envisageable, mais je pense que vous, chercheurs, devez avoir une grande question à régler avant de vous lancer là-dedans, c'est votre positionnement épistémologique, c'est-à-dire, je vais faire une recherche pour évaluer, mais qu'est-ce que j'entends par évaluer ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais faire des études de cas, Freud il a fait des études de cas, il dit qu'il y a des trucs qui marchent, on est tenté en le lisant, mais finalement, jusqu'où peut-on dire que ça marche ? Quand je fais un essai randomisé, on montre statistiquement que ça marche, mais jusqu'à quel point on peut dire que pour un patient ça marche. Vous voyez, il y a, vous aurez à répondre à cette question. Et puis en train très pratique, je conclue sur aussi une conclusion de Maria. Le groupe contrôle, quand même, en pratique, est un truc incontournable. Alors, groupe contrôle, ça ne veut pas dire qu'il faut en inclure dans vos études. Dans l'hépatite C aujourd'hui, pour avoir l'autorisation de mise sur le marché, il y a des firmes qui font des études sans groupe contrôle. Vous vous rendez compte, hein. À la FDA et à l'EMA. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent à plus de 95% de guérison. Quand vous avez 95% de guérison, vous ne pouvez plus avoir de groupe contrôle parce que c'est plus éthique. Donc la question, mais vous voyez, qu'est-ce qui permet de ne pas avoir de groupe contrôle ? C'est qu'on sait que dans la littérature, les thérapeutiques existantes aujourd'hui dans l'hépatite C, c'est 70%. Vous voyez ? Donc ce sont des contrôles historiques que l'on utilise. Donc vous avez le devoir de penser en termes de groupe contrôle sans nécessairement avoir de vrais patients en groupe contrôle. Mais cette question, elle doit toujours être dans votre tête. Merci pour votre attention.